Présenté par la rédaction de Radio U.
Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes le 27 octobre et vous écoutez C'est vous qui le dites, la quotidienne d'infos locales et citoyennes de Radio U sur le 101.1 FM. Il est souvent dit de Brest que c'est une ville sombre, pluvieuse et sans couleur. Mais s'il ne s'agissait que d'une question de regard. Et si, en regardant à travers l'œil de quelqu'un d'autre, Brest nous apparaissait totalement autrement? C'est le challenge initial de Mathieu Venot, photographe brestois, aujourd'hui connu à l'international, qui met Brest en lumière avec toutes ses couleurs. Mathieu sera avec nous en deuxième partie d'émission pour en parler. Pour beaucoup, faire du vélo, c'est faire du sport. Mais tout aussi souvent, c'est pour se déplacer, aller au travail, faire ses courses, rentrer chez soi, autant de moments où il faut se sentir en sécurité. Encore plus maintenant, alors qu'on vient de passer à l'heure d'hiver et que la nuit s'allonge. C'est justement pour parler de ça qu'on accueille l'association BAPAV, Brest à pied et à vélo, pour nous parler de son événement Cycliste Brillé, qui aura lieu le 5 novembre. Avec nous pour parler de cet événement, Axel Cap, en service civique à BAPAV. Bonjour.
Bonjour.
Est-ce que vous pouvez rappeler ce qu'est BAPAV en quelques mots pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas?
BAPAV, c'est Brest à pied à vélo. Maintenant, c'est presque dans le vocabulaire d'un Brestois. Mais c'est une association qui est là dans le décor pour l'implantation des mobilités actives comme la marche ou le vélo et essayer de rendre alternatif à la voiture au transport polluant. L'association, en fait, elle présente trois pôles majoritaires. C'est assez connu pour son atelier d'auto-réparation, où il y a des cyclistes, novices ou autres, qui viennent réparer leur vélo. Il y a aussi une partie, c'est la vélo-école, où on apprend à des jeunes ou moins jeunes à faire du vélo ou à se remettre au vélo après de nombreuses années de pause. Et puis une partie un peu de militantisme pour demander toujours plus pour le vélo et la marche.
Et de manière générale, comment est aménagé Brest par rapport au vélo aujourd'hui ?
Donc Brest, il y a beaucoup d'efforts quand même qui sont faits, mais ça pourrait être mieux. Il y a des pistes cyclables qui sont aménagées sur des itinéraires fréquentés pour les déplacements urbains journaliers. Il y a plusieurs types de pistes cyclables. Ça serait bien qu'il y ait plus de pistes cyclables protégées, c'est-à-dire où le cycliste n'est pas en contact direct avec la circulation, ce qui n'est pas toujours le cas. Et puis, un point qui peut poser problème sont les zones d'intersection, comme les ronds-points, où les cyclistes ils sont vulnérables, vu qu'ils se retrouvent dans la circulation. dans des zones où les voitures se croisent.
Et donc, du coup, le but de l'association, de manière générale, c'est qu'il y ait plus de gens qui fassent du vélo dans les temps qui viennent.
Ben, en fait, c'est d'inciter les gens à faire du vélo, mais aussi leur proposer, les inciter dans un environnement qui sera plus sécurisant pour eux aussi. Si la route elle est aménagée pour, ça va inciter des gens à s'y mettre parce qu'ils seront plus en sécurité. Puis, c'est dans le cadre de leur proposer de faire ça pour se rendre au travail ou dans des trajets quotidiens. Dans des trajets courts, en fait, pas forcément dans le but d'un exploit sportif.
Et dans ce but, est-ce que BAPAF travaille avec la ville et est-ce que vous cherchez à mettre en forme des partenariats pour refaire des pistes cyclables ou...
Oui, BAPAF, elle a une partie de bénévoles, mais pas que, qui travaillent pour les aménagements urbains, on les appelle les aménavoles. Et puis, ils travaillent avec Brest Métropole maintenant, ils sont concertés pour tout ce qui est aménagement de pistes cyclables. Ils ont été concertés, par exemple, pour les aménagements temporaires qui vont peut-être être pérennisés liés au virus, par exemple.
Donc, BAPAF, c'est à la fois faire en sorte que plus de personnes se mettent au vélo, mais aussi dans des conditions qui soient un peu plus sécurisantes. Tout à l'heure, je disais en introduction, vous organisez l'événement Cycliste Brillé qui aura lieu le 5 novembre. Est-ce que vous pouvez me parler de l'objectif de cet événement ?
Donc en fait, c'est une campagne de sensibilisation qui a l'initiative de la FUB. La FUB, c'est la Fédération des usagers de la bicyclette. Donc c'est une campagne nationale. Ça se déroule sur toute la semaine, donc du 3 au 8 novembre prochain. Et nous, on a décidé, comme on est membre de cette communauté de la FUB, on a décidé de faire un événement sous la forme d'une balade lumineuse. Mais ça pourrait être sous d'autres formes, ça dépend des villes.
Et justement, quel est votre lien avec la FUB ? Est-ce que vous participez à tous les événements qu'ils proposent ?
On essaie de se raccrocher à une grande partie des événements quand ce sont des semaines de campagne nationale, par exemple. Oui. Bon, après, on est aussi à l'initiative d'autres événements plus locaux quand il y a la chose qui est créée.
Donc là, c'est un événement qui a pour but de sensibiliser à tout ce qui est... Je suis fatiguée. Qui a pour but de sensibiliser à tout ce qui est lumière et visibilité sur la route en vélo. Aujourd'hui, un équipement lumineux à vélo, c'est pas seulement conseillé, c'est obligatoire dans le code de la route. Est-ce que c'est aussi un moyen d'informer et de rappeler ça aux usagers ?
Oui, là, on va pas venir en mode... pour les accuser, pour leur dire que c'est une loi, c'est surtout pour eux, en fait, c'est que ça protège d'être visible. Souvent, quand on est cycliste et également conducteur, on le sait, parce que quand on se retrouve au volant de la voiture, on s'aperçoit vite qu'un cycliste mal signalé, mal éclairé, est particulièrement vulnérable. Donc, c'est bien que ça soit inscrit dans la loi, c'est aussi pour soi que c'est important.
À qui ça s'adresse, cette promenade en particulier ?
Alors, la campagne nationale, elle se veut pour tout le monde. Nous, on a décidé cette année de le cibler plus vers les étudiants. Pourquoi ? Parce qu'on s'aperçoit que beaucoup d'étudiants ou de jeunes en général roulent mal éclairés ou sont peu visibles. Ça peut être pour plusieurs raisons, soit parce qu'ils ne savent pas, soit parce qu'une raison économique, l'éclairage d'un vélo correct, ça peut coûter cher. Ou alors parce qu'ils ne veulent pas porter le gilet jaune, parce que c'est pas très fun, un gilet jaune. Et donc c'est pour ça que cette année, on l'adresse plus particulièrement aux étudiants et qu'on a décidé d'organiser cette balade au départ de l'UBO sur le campus.
Et justement, là, vous parlez des étudiants, mais est-ce qu'il y a une démarche, peut-être dans les mois à venir, dans les années à venir, de vraiment sensibiliser à tout ce qui est visibilité, vraiment dès le plus jeune âge, donc dès que les enfants se mettent à faire du vélo, donc je ne sais pas, à 5-6 ans ?
Pour les plus jeunes, nous, on intervient beaucoup dans les écoles, donc ça fait aussi partie de la sensibilisation, oui, qu'on promeut auprès des enfants. Et puis, il y a quand même de plus en plus d'obligations qui, qui oblige le cycliste à rouler visible et éclairé.
Est-ce que cette promenade, elle est aussi ouverte à tous les propriétaires de voitures, donc notamment les étudiants, pour qu'ils se rendent compte de la fragilité de la vie des cyclistes sur les routes et peut-être pour qu'ils puissent modifier leur conduite à l'avenir ?
Alors oui, ça pourrait être une bonne idée qu'ils s'aperçoivent qu'un groupe de cyclistes lumineux, c'est bien visible sur la route, mais qu'on reste vulnérable. Donc ouais, on pourrait imaginer ça, on ne les a pas particulièrement conviés, mais ça pourrait.
Donc du coup, est-ce qu'on peut dire que ce moment n'est pas ouvert qu'aux cyclistes ?
Oui, la première partie. Donc en fait, jeudi 5 novembre, on donne le rendez-vous à 19h aux participants. Ça va être un moment où on va vérifier ensemble si chacun est bien éclairé de base. Et puis si ce n'est pas le cas, parce qu'il n'a pas d'éclairage ou pas de gilet, on a, avec Brest Métropole, on s'est mis d'accord pour qu'eux nous fournissent du matériel. Donc ce sont des lampes, des écarteurs. Et on a quelques gilets fluo, donc à distribuer si c'est nécessaire auprès des cyclistes. Et après, dans un second temps, donc tout ça, c'est la partie, on va dire, sensibilisation. Et puis après, on ira faire une petite balade en ville, tous ensemble, avec cet équipement obligatoire. Et puis, pour ceux qui le veulent, ils peuvent aussi rajouter des équipements lumineux non obligatoires, colorés, au libre choix.
Et donc du coup, là vous parlez de sensibilisation, parce que vous allez regarder si les vélos sont convenables en termes de luminosité, etc., d'éclairage. Est-ce qu'il y aura quand même des discussions à ce moment-là, ou c'est vraiment juste sur vérifier que les vélos sont convenables ?
Oui, bien sûr, on répondra aux questions, pourquoi on prend tel éclairage, pourquoi un gilet c'est plus visible, pour qui. Et puis, on va essayer de montrer, il y a des travaux qui sont présentés par la FUB, justement, qui mettent en comparaison tous les types d'éclairage. Donc ça peut montrer quelle sorte d'éclairage est plus ou moins bien pour les cyclistes. S'ils souhaitent en acheter des assez performants, ça peut être intéressant pour eux. Et puis tout au long de la semaine, on va essayer de faire de la communication sur plein de petits points qui peuvent être utiles pour garder ça en tête au début de l'hiver.
Donc plein de choses dans la semaine, mais quand même là, on est là pour parler de la balade. Pourquoi choisir de faire une balade nocturne et pas une conférence, des ateliers où on apprendrait vraiment à monter les lumières sur le vélo, etc.
Peut-être parce qu'on peut imaginer que faire ça, donc bon, on peut dire que c'est un peu plus ludique. Et puis aussi parce que ça nous donne une visibilité par rapport aux automobilistes. En fait, en se promenant à travers la ville, on va être vu par les gens à pied, par les bus, par les automobilistes. Donc là, ça va peut-être leur attirer l'œil. Ils vont dire « Ah oui, tiens, les cyclistes, la nuit, ok, là, il y a un gros groupe illuminé, mais ils vont garder ça en tête et aussi même en parler autour d'eux. » Donc c'est le but, oui.
Donc d'être visible. Justement, est-ce que vous pouvez nous parler du parcours de la balade et pourquoi ce parcours en particulier ?
Le parcours, il va partir de l'UBO, donc pour essayer de motiver au maximum les étudiants en faisant un parcours près de chez eux pour qu'ils viennent. Et puis après, on va aller vers le centre. On n'a pas encore déterminé très, très, très précisément, mais ça va aller vers le centre, puis une petite boucle pour revenir. Mais le but, c'est de circuler en ville pour montrer que même en ville, alors qu'il y a de l'éclairage urbain, le cycliste, il reste quand même peu visible, enfin, ça reste, c'est pas une voiture, quoi.
Et est-ce que vous avez des chiffres en tête sur la mortalité, dans le pire des cas, ou en tout cas les blessures à vélo, dues au peu de luminosité à Brest ou en France ?
Je n'aurais pas de chiffres à vous donner, mais il a été montré, par exemple, qu'avec le passage à l'heure d'hiver, malheureusement, il y a des chiffres d'accidents qui augmentent. Donc ça montre bien que circuler la nuit fait augmenter les nombres d'accidents, malheureusement.
Et est-ce qu'à Brest, on sait si les étudiants sont particulièrement touchés ?
Sur Brest, non, je ne saurais pas dire.
Et en France ?
Si les étudiants, non, je ne sais pas s'ils sont plus les étudiants, mais...
Parce que comme là, vous faites une campagne ciblée sur eux.
Bah, c'est parce que c'est quelque chose qu'on peut remarquer assez facilement. C'est que les étudiants ont pas tout. Étudiants et jeunes ont peut-être moins un vélo équipé d'éclairage qu'une autre personne. Mais bon, c'est un public qu'on cible cette année. On pourrait cibler d'autres publics pour les autres éditions à venir.
Et justement, pour une prochaine édition, est-ce que vous avez déjà un public en tête ?
Non, on n'a pas encore réfléchi à ça.
Donc là, en parlant d'édition, c'est la deuxième, si je ne me trompe pas.
Alors, organisée par la FUB, non, je pense que ça fait un peu plus d'éditions, mais que BAPAV crée un événement. Ouais, je pense que c'est la deuxième.
Est-ce que vous constatez une évolution, un impact sur l'utilisation du vélo à Brest, et notamment en ce qui concerne la visibilité ?
Bien sûr que qu'il y a de plus en plus de gens à vélo. On peut imaginer qu'avec, il y a aussi un meilleur équipement. Pourquoi pas, quand quelqu'un achète un vélo neuf, c'est vrai qu'il va être vendu a priori avec de l'éclairage et de l'équipement lumineux. Donc ça peut aider à rouler mieux éclairé. Après, il ne faut pas hésiter, même en ayant un vieux vélo, à l'équiper par soi-même d'éclairage. Ouais.
Mais est-ce que vous avez eu l'impression que la campagne de l'année dernière a eu un impact réel ?
Difficile à mesurer.
Et du coup, pour les personnes qui nous écoutent, quelles sont les choses obligatoires à avoir, à porter en vélo pour rouler la nuit ?
Alors, en obligatoire, déjà un vélo à la vente, il va falloir qu'il soit équipé, un vélo neuf à la vente de catadioptres, donc ces petites formes oranges qui sont glissées dans les rayons du vélo. Et puis quand on roule en dehors d'une commune, c'est obligatoire de rouler éclairé, c'est passible d'une amende en fait. Hein, donc à l'arrière du vélo, ça va être une lumière rouge, et puis à l'avant, un feu blanc.
Et est-ce que le gilet est obligatoire ?
Alors le gilet est obligatoire la nuit en dehors des communes.
Et enfin, dernière question, comment on sait si notre vélo est aux normes lumineuses ?
Il y a sur le site du gouvernement, on peut aller vérifier, puis il y a un tableau qui dit en fonction si on est en commune, pas commune, nuit ou jour, il y a tous les équipements qui sont indiqués.
Bah, merci à vous.
Bah, merci.
Donc je le rappelle, c'était Axel Cap de BAPAV pour parler de l'événement qui arrive, qui s'appelle Cycliste Brillé, qui aura lieu le 5 novembre pour alerter les cyclistes sur l'importance de s'équiper en termes d'éclairage. Et à présent, on écoute Bouche de Roman Roncet.
Quand la foudre me traverse.
Vous êtes sur Radio U, dans l'émission C'est vous qui le dites. C'était Bouche de Romane Roncet. Nous vous rejoignons dans les studios Mathieu Venot et Nathalie Billon pour parler du parcours de Mathieu, mais aussi de son exposition photo, qui elle aussi commencera le 5 novembre à la Bibliothèque universitaire de Brest. Bonjour Mathieu.
Bonjour.
Bonjour Nathalie.
Salut.
Mathieu, comment vous avez appris à faire de la photo ?
Tout seul. Je sais pas, j'ai appris, non, en regardant des tutos sur internet à l'époque. C'était il y a 5 ans ou 6 ans, ouais, un truc comme ça.
Donc vraiment sans cours, juste vous-même.
Ouais, j'ai mis quand même un an avant de savoir utiliser mon appareil photo. C'était un peu long, fastidieux.
Quelles sont vos inspirations, que ce soit en photo ou même dans d'autres arts ?
Ouais, c'est dur ça. les inspirations, bah, je sais pas. J'ai bien aimé l'école allemande à une époque qui faisait de la photo là, avec le couple. Bon, c'était vraiment très longtemps, c'était les années 60-70. Ils rendaient beau des usines ou des trucs comme ça. Et c'était hyper géométrique à l'époque, c'était en noir et blanc, mais c'était vachement beau. Et ouais, c'est surtout ça.
Et en musique, parce que du coup, avant, vous faisiez de la musique.
Ouais, une époque, c'était il y a longtemps, c'était il y a 10 ans déjà. Et ça date. Ça passe vite, surtout. En musique, non, j'aime bien. Tu connais Nathalie Beachhouse et trucs comme ça. Tous les trucs indés, un peu rock, sub pop, tout ça. Voilà. La pop à tout.
C'est déjà pas mal. Vos premières photographies ont été faites ici, à Brest. Pourquoi photographier Brest ?
Parce que j'y habite, donc c'est un peu pratique. Et je trouvais qu'à l'époque, Brest n'était pas trop représenté la manière dont j'avais envie. Et du coup, ça m'a fait... J'avais envie de me balader, découvrir un peu, et puis bon, bah, c'est parti de là. Je me suis baladé, puis j'ai fait des photos. Et puis voilà. Et après, j'ai posté sur les réseaux sociaux, ça aide un peu quand même. À montrer quoi.
Et donc du coup vous faites des photos assez colorées. C'était important pour vous de donner une autre image de Brest et de la Bretagne qu'on voit souvent comme assez grise, pluvieuse, etc.
Ouais, c'était ça le début, ouais. C'était carrément ça. C'est vrai qu'on a toujours un peu une image de Brest, ça traîne dans l'inconscient ou la culture, je sais pas trop. On imagine toujours noir et blanc, sombre, il pleut. Bon, c'est vrai qu'il pleut, ça arrive, mais il pleut pas tous les jours. Et du coup, je m'étais dit, bon, on va montrer ça comme ça.
Comment vous savez, comment vous sentez, quand et comment prendre une photo ? Est-ce qu'il y a un déclic ?
Ouais, souvent, je la vois avant de la prendre. Mais bon, après, ouais, c'est comme ça. C'est un peu au feeling, hein, complètement au feeling. Donc, je me balade et puis après, je tourne autour d'un truc intéressant. Il y a des ombres, il y a des couleurs, il y a des... Et puis voilà, ça tape, j'essaye. Puis si c'est pas bien, je reviens le lendemain ou je tourne autour 2 heures après ou des trucs comme ça, quoi. J'essaye. Ça demande du temps.
Ouais. Est-ce que votre regard, votre œil, il a évolué au fil du temps ? Parce que du coup, ça fait quand même quelques années maintenant que vous faites de la photo.
Ouais, je pense qu'au début c'était plus minimaliste. Il y avait pas grand chose. C'était vraiment minimum. Et puis maintenant, j'essaye de construire un peu plus, de composer un peu plus. Un peu plus compliqué, mais bon, c'est peut-être pas bien. Mais bon, j'essaye. J'en sais rien, c'est peut-être pas bien.
Est-ce qu'il y a une question de bien ou de pas bien dans la photo
Non, c'est sûr. Non, c'est comme on fait, comme on le sent, quoi. Après, quand j'ai commencé à Brest, le truc, c'est que je pouvais pas trop montrer les bâtiments en entier. Des fois, une fois, j'ai eu ça. J'ai eu, je sais plus qui c'était, une agence qui voulait refaire des photos avec des mannequins dedans. Et je leur ai envoyé les Google Street View, les captures. Les mecs, ils ont fait, oh ouais, on va peut-être pas faire ça comme ça, surtout au mois de novembre. Genre, le truc. Moi, je montrais un bâtiment rose avec le ciel bleu. Et puis, en fait, quand tu regardes en dessous. Bon, c'était pas... Tu pouvais pas mettre un mannequin devant le truc, la porte d'entrée de la maternelle ou j'en sais rien, tu vois. Bon, ça ressemblait plus à rien.
Et justement, est-ce que vous passez par Google Maps ou Google Street View pour choisir des endroits, quand vous pouvez pas vous dépasser sur place ?
Ouais, souvent, avant, je fais des repères Google Street View, ouais.
Ça a été le cas pour Brest ou pas ?
Non, Brest, j'ai pas eu besoin, mais en fait, je fais quand j'ai pas beaucoup de temps. Quand je reste une semaine, je fais un mois sur le studio. Donc voilà.
Comment, quand on est photographe, on décide quelles photos vont ensemble et forment une série, parce que vous photographiez par série?
Ouais, ça met du temps. Souvent, c'est 2 ans après je fais une série, que je les bloque ensemble. Ouais. Au début, c'était un an, maintenant c'est 2 ans. Je sais pas. Je trouve que ça va bien ensemble, donc je les mets ensemble, mais après, il n'y a pas de règle.
Donc une question de feeling, encore une fois.
Ouais, il n'y a que ça, hein, finalement.
qu'est-ce que vous utilisez comme matériel?
Au début, j'utilisais mon téléphone, et puis après, j'ai voulu imprimer à la première expo de Kutch. Je me souviens, je me suis dit, bon, je vais imprimer mes photos que j'avais faites avec mon téléphone. Je me suis dit, ouais, non, je vais peut-être prendre un appareil photo finalement. Et puis là, j'ai un Canon 5D Mark II, c'est des trucs, ouais, il y a plus de 10 ans maintenant. C'est pas un truc super technologie. En fait, la technologie, ça sert à rien, de toute façon. Bah, après, c'est le feeling, quoi. On en vient toujours au même. Super.
Mais bon, le feeling, c'est souvent très important dans l'art, hein, de manière générale. Donc,
Ouais, sûrement. Sûrement. Ouais, non, c'est ça. En fait, je pense qu'il faut une technique, et puis après, il faut surpasser. Faut l'oublier, j'en sais rien. Faut faire. En ce moment, j'écoute des podcasts sur Matisse, et c'est super intéressant. Ouais. Le cœur vers la main. Et c'est pareil, le cœur vers l'œil, et puis voilà, tu fais ton truc.
Est-ce qu'il y a une part de retouche dans vos photos?
Ouais. À l'époque, putain, j'ai chaud là-bas. J'ai chaud chez vous. Je suis venu en marchant là-bas. Pas mal au niveau. Enfin, après, ça dépend, pas mal ou pas mal. Je suis pas non plus hyper dans la technique Photoshop. Il y avait quand même contraste, exposition que je revoyais surtout au début. Maintenant, j'arrive quand même à faire des photos où je suis assez content dès le début, dès la prise. Mais au début, c'était compliqué avec contraste, saturation, des trucs comme ça. Quoi.
Donc les retouches, c'était surtout pour cacher des défauts, entre guillemets?
Ouais, il y a eu des défauts. Ouais. J'avais des points sur les photos, c'était dû à mon objectif. Mais non, ouais, non, je cache. S'il y a une fissure, je la laisse. S'il y a une fissure sur un immeuble, je la laisse. Ça me paraît être le truc. Je ne peux pas le cacher. J'y peux rien, en fait. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui me demandent, voilà, il y a une fissure, il faut l'enlever. Mais non, moi, c'était le bâtiment, c'est pas mon appareil photo qui a fait ça, ou c'est pas moi qui interviens sur tout, quoi. Donc voilà.
Et comment, quand on fait principalement des photos avec les mêmes couleurs, parce que vous faites beaucoup de photos de bâtiments qui sont de couleurs pastel, on évite la répétition ou le fait de se lasser?
Non, là, j'ai pas la réponse, là. Je sais pas, c'est des couleurs qui m'attirent. Après, ouais, c'est vrai que c'est... j'essaye de faire des trucs différents, mais bon, c'est toujours difficile.
Bah après, si vous, ça continue à vous apporter quelque chose, c'est ce qui compte.
Ouais. Super, ouais, carrément. Moi, ça me plaît toujours.
Pourquoi c'est centré sur l'architecture?
Je pense que j'étais trop timide pour aller vers les gens et faire du. Et j'arrive pas à diriger les modèles ou les. C'est plus compliqué, c'est autre chose. C'était facile, un bâtiment ça bouge pas. Moi, ça, pour moi.
Est-ce que c'est que ça ou est-ce qu'il y a aussi une question de ligne, de courbe?
Ouais, hein, là vous avez la réponse, hein, c'est pas. Non, j'en sais rien. Ouais, non, c'était sûrement une question de facilité, hein, au départ.
Et maintenant?
C'est toujours aussi facile, donc, ça n'a pas changé. Mais c'est vrai que le portrait, c'est intéressant, mais c'est plus long, hein, je trouve. Enfin, diriger une personne, c'est compliqué. Enfin, pour moi, en tout cas. Donc, voilà.
Et du coup, tout à l'heure, on parlait des couleurs. Pourquoi les couleurs pastel? C'est-à-dire, qu'est-ce qui vous attire dans ces couleurs-là? Si vous avez une réponse.
Non, j'ai pas de réponse. Non, j'aime bien les couleurs, mais après, ouais.
Et juste avant de continuer, on va écouter le titre Crocorama de Odyssée et Oracle. Sur le 101.1 FM dans l'émission C'est vous qui le dites, et on est avec Mathieu Veynaud, photographe, et Nathalie Billan, son éditrice, pour parler à la fois du parcours de Mathieu, mais aussi de l'exposition qui aura lieu le 5 novembre à la Bibliothèque universitaire de Brest, ainsi que la sortie d'un livre qui sortira au même moment. Pourquoi en faire un livre, Mathieu?
On a fait une revue avec Nathalie il y a 2 ans, qui s'appelait, comment il s'appelait déjà ?
Faire tenir les murs.
Ah oui, c'est ça, 29200.
29200, donc c'est une revue qui est éditée, il y a un numéro par an, et donc je demande à un photographe de me donner sa vision photographique de la ville de Brest. Donc le numéro 1, c'était Mathieu Veynaud, ça tombait bien parce que c'était une nouvelle vision, une vision plus pop, plus californienne. Mmh. Et le numéro 2, c'était Gilles Walusinski, qui lui avait pris des photos en 82 et en 92 de la ville de Brest, des pauvres et du port. Donc deux visions complètement contradictoires, et c'est plutôt intéressant. Donc il y aura un numéro 3 qui va paraître fin décembre.
Déjà prévu. Ça va vite. Hein. Tu vas à fond la caisse. Donc on avait fait ça il y a en 2018.
En 2018. Ouais.
Et à l'époque on s'était dit tiens on en fait un autre dans 2 ans.
Ah oui, on s'était dit ouais, on va faire un livre beaucoup plus beau.
C'était ça à l'époque.
Et quand on aura un peu plus d'argent, quand les éditions autonomes qui est montée aussi en statut associatif aura vendu plus. D'édition, plus de livres, on aura un peu plus d'argent de côté et on pourra se permettre de s'offrir le bouquin que l'on rêvait déjà dès le début. Et ça y est, c'est celui-là qui sort.
C'est novembre.
Et du coup, vous, en tant qu'éditrice, qu'est-ce qui vous intéressait dans ce projet ?
Dans le projet de Mathieu ? Bah, justement, c'est sa vision californienne de la ville de Brest. Alors, la prochaine édition, c'est une vision donc de plusieurs villes. Il n'y a pas que Brest, il y a aussi Lisbonne, Miami, il y a la Baule, il y a Dunkerque, quelques photos de Pékin. Je pense que j'oublie rien.
Ouais, non.
Non.
Il y a Landerneau aussi.
Ah oui, il y a Landerneau. Et en fait, moi, ce qui m'intéressait, c'était d'avoir une vision aussi qui se rapproche de la peinture. Donc plutôt des grands aplats, des dégradés, et avoir une vision un peu plus contemplatif de la photographie.
Et du coup, comment s'est passée votre rencontre ? Est-ce que c'est vous, Nathalie, qui avez repéré Mathieu ?
Moi, je connaissais Mathieu déjà. On avait fait l'expo avant, mais j'avais rencontré Mathieu lorsqu'il jouait avec son groupe Prismo Perfect.
Ah, oui,
je t'avais dit que le passerait Prismo.
Ah, là, t'es trop contente.
Ah, ouais. Et en fait, un jour, Mathieu est arrivé chez Kutch. C'était quand on avait ouvert le local, donc il y a à peu près 6 ans, semble. Ouais. Il est arrivé avec ses photos. Et c'était drôle parce que tu nous montrais les photos et il fait « Ouais, vous en pensez quoi ?» Mais c'est génial, vas-y, il faut que tu fonces. Donc après, il y a eu le compte Instagram. Et après, puis ça a pris beaucoup, beaucoup d'ampleur. Donc déjà, à cette occasion-là, il y a 6 ans, on était, en tout cas chez Kutch, très fan de son travail.
J'ai de la chance.
Et donc
c'est
on a
vrai,
fait...
moi j'adore Kutch, alors j'ai de la chance.
Donc on avait fait une expo. Et après, on n'a pas arrêté de faire des choses ensemble, finalement.
Ouais. Parce que t'es pas que éditrice, hein. Elle est graphiste...
Oui, je suis un petit couteau suisse.
Ouais,
est-ce que dans le livre, il y aura des photos exclusives qu'on ne retrouve pas justement sur le compte Instagram de Mathieu ?
Oui, il y en a. Il y en a. Attention. Il y en a pas mal, je pense. Hein. Il y en a 10 ou 15, un truc comme ça.
Oui, parce qu'en fait, Mathieu m'a donné toutes ces photos qu'il a faites et c'est moi qui ai fait le tri et la narration éditoriale. Donc, c'était, je sais pas combien d'images il y avait à la base, mais...
Pas loin de 300, peut-être.
Pas loin de 300, et donc c'était... Enfin, c'est ça qui est génial aussi en édition, c'est de pouvoir raconter une histoire à travers plusieurs images.
Ouais, parce que là, tu l'as vraiment construit. Moi, j'ai totalement confiance dans tout ce que tu fais. Alors du coup, c'est vrai, je lui ai donné toutes les images, et puis elle a construit le truc, mais c'est trop beau maintenant. C'est magnifique. Les pages se répondent et les photos, elles n'ont rien à voir. Parce que moi, je ne pouvais pas faire ça. Je suis trop impliqué. Pour moi, Landerneau et Lisbonne, je ne peux pas les mettre ensemble. Et Nathalie fait, ça rend trop bien.
Mais justement, comment on fait un tri entre différentes photos et comment on les place les unes à côté des autres pour raconter une histoire ?
Il faut déjà penser à un concept éditorial. Donc là, on a pensé tout simplement au concept du dégradé, de couleurs et des tonalités. Qui sont plus ou moins pastels ou rabattus ou au contraire lumineuses. L'exposition des lignes et des couleurs qui aura lieu à l'UBO est aussi construite sur le dégradé. Donc ça me semblait assez cohérent de faire la même chose. Bon, à la toute fin, avant d'envoyer le fichier à l'imprimeur, j'étais prête à changer le concept et travailler.
C'est
plus
vrai.
À travailler plus tôt. Je t'avais parlé de ça sur l'ombre. Tu sais, l'ombre. Comment on appelle ça, un cadran solaire.
Donc
je me suis dit, on va tout changer.
Les ombres, tu déplaces les ombres.
Ouais, c'est ça. Et puis finalement, je me suis calmée.
Ça aurait été ma boule.
Et du coup, c'est quoi l'histoire que ce livre raconte ?
Non, il n'y a pas d'histoire.
Il n'y a pas d'histoire.
Tu te balades.
Ouais, c'est une balade poétique, c'est une balade positive. Enfin, on parle, d'ailleurs, dans le livre, il y a deux préfaces, une écrite par Valérie Timmermans, qui s'occupe du blog Subjective, qui est curatrice, et l'autre préface par Jean-Baptiste Monietti, qui, lui, est professeur à l'École des Beaux-Arts, dans la section art. Et du coup, on parle de réalité positive, de quelque chose qui nous fait du bien. Ce sont des images qui sont lumineuses. Alors, on part... si on peut parler de narration, on parle quand même... peut-être, on peut s'imaginer, avec le dégradé de l'aube au crépuscule. Il y a quand même une construction un peu dans ce sens-là.
Ouais, carrément.
Et donc, du coup, le livre et l'exposition ont été pensés ensemble ?
Pas forcément ensemble, mais quand même toujours en relation. Enfin,
ouais. Moi, j'avais l'idée de l'expo déjà avant que tu commences le livre, où je t'avais dit, je pense que je vais... c'est comme le flyer, je vais ranger par couleur mes photos et je vais dégrader comme ça sur plusieurs mètres des lignes. Et à partir de là, t'es parti dessus.
Hein. Ouais.
Mais c'était pas évident. C'était pas évident du tout.
Mais surtout qu'on retrouve pas forcément les mêmes photos dans l'exposition que dans le livre.
Non, pas du tout.
Pas du tout même.
Puisque dans l'expo, il n'y a que Brest.
Ouais, voilà. Alors que dans le livre, il n'y en a que... une ou deux de Brest.
Et dans le livre, les photos, elles datent de toutes les époques, j'ai envie de dire, enfin, depuis vraiment le début où vous avez commencé à faire de la photo.
Il n'y a pas beaucoup du début, puisque c'était Brest au début, et s'il y en a une ou deux, bon, il n'y en a pas beaucoup. Après, c'est surtout Lisbonne en 2016, Miami en 2018, et puis, tu dois avoir Pékin en 2018, un truc comme ça. Peut-être qu'il y en a des plus récentes, mais je ne sais plus trop. 2020, il y en a... peut-être un petit peu...
Mais on avait envie vraiment de mélanger les dates de prise de vue et aussi les lieux. Bon, on retrouve quand même à la fin un petit mémo en fait, qui explique les lieux géographiques où ont été prises les photos par ordre d'apparition. Mais en fait, l'idée, c'était vraiment de tout mélanger pour faire un nouveau monde, un univers un peu parallèle.
Parce que je suis un peu comme ça aussi dans mes photos. J'aime bien moi, me perdre dans les villes. Et finalement, on se perd un peu dans les photos. Et puis, en même temps, ce que j'aime bien, c'est... je ne sais plus ce que j'allais dire. Donc... Non, je ne sais plus. J'allais dire un truc, mais ça devait être con. Donc, je ne dirais pas. J'ai oublié. Donc, voilà. Très bien.
Et en termes de ville, comment vous choisissez les destinations, les villes où vous allez pour prendre des photos ?
Lisbonne, c'était genre, j'étais là, je sais plus pourquoi j'ai dû aller à Lisbonne. J'avais avoir un travail pour faire pour un téléphone, un truc comme ça, quand je travaillais avec Huawei. Et puis ils me disent, ouais, on veut des photos ensoleillées. Et puis je fais, on était au mois de novembre. Oh merde, je vais aller où ? Pas trop loin. Et Lisbonne, c'est cool, c'est vraiment pas loin. Et pour le coup, alors là, t'as des couleurs, t'as de la bonne lumière, c'était vraiment génial. Donc c'était ça. Après Miami, j'avais une expo là-bas, du coup j'étais allé là-bas, et puis souvent, je fais pas grand-chose.
Et pour revenir sur l'exposition, c'était important pour vous de faire une exposition ici, donc un peu là où tout a commencé. Enfin, pas à LBO, mais à Brest.
Ouais, c'est cool de faire une expo à Brest. Mais je trouve que en plus là, ça va être dans la salle de... le hall d'entrée de la bibliothèque. Et ça va être pas mal parce que normalement, j'ai pas commencé, mais j'ai 800 photos à coller, rangées par couleur, sur le mur. Ça va faire à peu près sur 20 mètres. Bon, il y a du boulot, mais je pense que ça peut être super beau au final. C'est le rendu, en fait. Ce que j'aimais bien avec les 800, c'est ce que j'avais fait au Macorlan en 2016. Et j'aimais bien le fait d'avoir plein de trucs où tu regardes soit de loin et t'as des couleurs, soit tu vas tout près et tu regardes les détails de chacune, mais en même temps, tu as aussi... ce que j'aimais bien avec plein de photos, c'est que tu as un peu une idée à notre consommation de l'image où on en a vraiment plein. On ne sait plus quoi en faire au bout d'un moment. Et j'avais cette idée-là aussi dans la tête. Bon. À ma manière.
Et donc là, l'exposition, c'est que des photos de Brest. Est-ce que c'est des photos qui datent de 2015-2016 à aujourd'hui, ou c'est que...
Ouais, il y a de tout. Il y a de tout. Après, la date, je ne fais pas trop gaffe, parce que Brest, ça ne change pas beaucoup. Si, j'ai repéré de nouveaux bâtiments.
Bon, il faudra que j'y... Peut-être des futures photos.
Peut-être.
Qu'est-ce qui vous plaît dans la photo?
J'aime bien marcher. J'aime bien créer, j'aime bien marcher. Bon, ça s'arrange bien. Je fais ce qu'il faut. Moi, c'est surtout créer, à la base, qui m'intéresse. La photo, pour moi, c'était un moyen un peu plus facile, je trouvais, au départ.
Et pour vous, qu'est-ce qui fait une image forte, une image qui marque? Est-ce qu'en tant qu'éditrice, on a aussi son mot à dire là-dessus?
Help me.
Je pense que c'est surtout subjectif.
Ouais.
C'est le ressenti, ouais, par rapport aussi à ce qu'on a vécu. Oui, je pense que c'est subjectif.
Mais par exemple, il y a une photo qui a beaucoup marché, c'est la photo des 5 balcons.
Ah ouais, je sais pas. Ouais.
Comment on explique... Enfin, vous sauriez expliquer ça ou...
Et je sais pas, parce que sur le moment, avant de la prendre, je savais qu'elle était bien. Je la prends et je l'avais montrée après à Julien. Je me souviens, regarde la photo. J'ai pris ça. Waouh. Et en fait, le truc, c'est qu'après, j'ai découvert que quand même, dans la géométrie, il y avait quelque chose de rassurant. Et là, c'était trop parfait, quoi. T'avais tout qui s'alignait nickel, les 5 balcons, la ligne forte. Et du coup, je pense que c'est rassurant. On est rassuré, on voit ça, tout va bien. C'est pas le bordel, t'es pas là. Ouais, je comprends.
Quelle est la photo que vous avez prise qui vous a le plus marqué? Si vous arrivez à dire.
Non, moi après, ça va être con à dire, mais j'ai fait une rencontre avec un rappeur. J'aurais jamais imaginé faire ça alors que je fais de la photo d'architecture. Après, j'ai fait des bonnes photos ou pas, je m'en fous, mais la rencontre était cool. Compliquée, mais cool.
Et pour revenir sur les villes, est-ce que vous avez été, pareil, marqué par une ville, par un endroit en particulier?
Lisbonne, ouais, Lisbonne, j'ai bien aimé. Pékin, c'est compliqué. Et puis Miami, ouais. Lisbonne, c'était cool. Mais bon, au final, je crois que je reviens toujours sur Brest. Je crois que c'est toujours Brest le mieux. Je me sens bien. Bon, après, personne ne va me contredire ici.
J'ai lu dans pas mal de interviews qu'on comparait vos photos à de la peinture. En parlant de création, est-ce que c'est quelque chose qui vous tente un jour?
Ouais, j'aimerais bien, mais bon, c'est pareil, hein, c'est long, hein, à digérer, à apprendre. Ouais, bon, j'apprends doucement. Un jour.
Et enfin, est-ce que vous auriez des conseils pour quelqu'un qui veut se lancer dans la photographie?
C'est comme tout, il faut pratiquer en permanence, quoi. Je sais pas, il faut avoir son appareil photo. Alors maintenant, ça peut être un téléphone ou n'importe quoi, mais il faut regarder autour de soi, il faut observer beaucoup. C'est surtout ça, mais en fait, c'est assez compliqué parce que la photo, finalement... j'aime bien faire de la photo, mais quand tu fais de la photo, par exemple, quand tu es avec des gens, si tu fais de la photo, tu profites pas de la soirée. Tu es en dehors du truc, tu vois, tu te mets dans ta bulle et puis tu... Bon, après, ouais, c'est ça. Bon, faut faire beaucoup de photos si tu veux faire de la photo. Mais après, il n'y a pas de technique.
C'est bon. Du feeling.
Toujours. Un ressenti.
Merci beaucoup à tous les deux.
Merci.
Donc c'était Mathieu Veynaud.
Pardon.
Pas de soucis. C'était Mathieu Veynaud et Nathalie Billon pour présenter entre autres l'exposition de photos de Mathieu à la bibliothèque universitaire à partir du 5 novembre, date à laquelle sortira également le livre de ses photographies.
Aux éditions Autonomes.
Voilà, parfait. Peut-être êtes-vous passé au Capucin la semaine dernière et peut-être avez-vous entendu du côté nord du bâtiment scie, perceuse et autres engins bruyants. Peut-être même êtes-vous passé à cet endroit et avez-vous vu une dizaine de personnes s'affairer sur des planches de bois et des cubes de béton. Et peut-être vous êtes-vous demandé ce qu'il pouvait bien se passer là. Laurette est allée se balader avec son micro dans ce chantier participatif où le fourneau, les manufacteurs et des bénévoles s'attelaient à construire le futur mobilier urbain du plateau des Capucins.
Parfait. Et en fait, nos cales, maintenant, ça va être nos rivets.
Je m'appelle Emeline, je travaille pour le Fourneau, Centre National des Arts de la Rue à Brest. Et on est ici sur le plateau des Capucins pour un projet qui s'appelle la Fabrique citoyenne et poétique des Capucins. C'est un projet qui existe depuis 2016, pour lequel nous, avec le Centre d'Art Passerelle, on a répondu à un appel d'offres sur imaginer et embarquer des habitants autour des projets d'espace public sur le plateau des Capucins.
Et ben nous, alors Rivetage, du coup, c'est, on est sur les, donc il y en a une comme ça à faire, donc c'est la partie street art.
C'est ça. D'accord. En fait.
Et sinon, le reste, c'est ça. En fait, c'est les bandes de la partie pique-nique.
Là, on est sur la dernière phase du projet qui est sur la conception d'aménagement de mobilier urbain extérieur. On a travaillé avec les habitants depuis une petite année sur la conception et le dessin et le design de ces mobiliers avec le collectif Les Manufacteurs. Et là, on est vraiment sur le chantier de construction depuis une semaine et pour encore une semaine.
T'en fais un et après c'est Kieran, t'en fais un.
Ouais, ok.
Vas-y.
C'est des chantiers pour des bricoleurs comme des non-bricoleurs. On va aussi bien créer de la peinture et peindre, faire du perçage, du vissage, du riftage. Et là, c'est le compresseur pour river qu'on entend. Et le principe, c'est qu'on va créer les assises de A à Z avec les habitants avant de les installer sur les espaces publics et qu'ils soient accessibles pour tout le monde.
Ça vous va ?
Ça vous va ?
Ok,
allez,
bon,
go.
Parfait.
On va vous couper là-bas et puis nous, on va à la rue.
Ouais.
Et après,
on va tourner tout au long de l'après-midi.
Du coup, la manœuvre est active.
Là, t'actives, il faut toujours que tu restes appuyé sur celui-ci. Voilà, sinon, elle a relevé avant qu'elle arrête. Et voilà.
Et du coup, là, on met par-dessus. Là, tu mets par-dessus. Et ça bloque avec ça. Et là, comme ça. Voilà.
Et après,
et là, tu perces.
On va les inaugurer le 4 novembre, si tout se passe bien, où en fait on va organiser ce qu'on a appelé un bal des Fan Week, tout simplement parce qu'on va utiliser pas mal d'engins élévateurs pour permettre d'installer ces mobiliers dans l'espace public.
Vas-y, tiens là la planche.
Allez, sort.
Ouais, et puis tous les panneaux là, vous voyez en métal, à la verticale là en fait il y a déjà des artistes qui sont venus intervenir dessus et dans le temps en fait dans l'idée c'est qu'il y avoir des interventions aussi autres et que ça évolue avec le temps aussi enfin que ça reste pas figé quoi.
Ça peut être tagué, ça peut être on peut coller des choses dessus, c'est comme un panneau d'affichage
oui quoi. Voilà.
Voilà.
C'est vous qui le dites, c'est terminé pour aujourd'hui. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur le site de Radio U. Et je vous laisse maintenant avec la chronique radiophonique L'économie autrement, qui va à la rencontre de personnes qui construisent l'économie de demain, en partenariat avec la CEIS, la saison des expérimentations et innovations solidaires, organisée par Ascoria, une école des métiers du social. Situé dans le quartier de Saint-Pierre, à Brest, le Maquis est un lieu de travail permanent et périodique pour les artistes, mais aussi un lieu d'échange avec le public. Ils s'y retrouvent, s'y croisent, échangent et partagent leurs univers. Marine Morivel, coordinatrice du Maquis, nous présente cet espace hybride.
L'économie autrement, le rendez-vous quotidien de l'économie sociale et solidaire en Bretagne.
Les mots pour qualifier le Maquis, c'est un bon exercice.
Création.
Création.
Politique.
Ouais. Partage. Engagement. diversité, ouverture, enfin, il y en aurait plein. Il y en a plein.
Éducation populaire. Mmh. Ouais, il y a vraiment une dimension d'engagement.
Mmh. Je suis Marine Morival, la coordinatrice du Maquis. Et mon rôle se définit autour de la gestion de l'activité du lieu, de l'accueil des artistes en résidence, des recherches de fonds, de la communication. Voilà, c'est être un peu le couteau suisse du Maquis. La petite phrase en dessous du Maquis, enfin, tu as le Maquis, le nom le Maquis, et en dessous, tu as en effet espace de création, collectif d'artistes et zone de partage artistique et politique à Brest.
Et là, ouais, il y a les photos des artistes, une partie, je ne les ai pas vraiment mises à jour là ces derniers temps, mais il y a des artistes en résidence. Alors, je ne sais pas si on voit tout le monde, mais il y en a 6 par an dans le cadre d'un appel à création que lance le Maquis chaque année. Ça s'appelle Prenez le Maquis. Et l'idée, c'est on a reçu une petite vingtaine de candidatures. Ben, c'est justement parmi ces très bonnes candidatures de pouvoir en choisir au moins 6 qui viendront en résidence gracieusement, puisqu'en fait le Maquis met à disposition les 2 salles de création, donc cette salle qu'on vient de voir et puis une autre qu'on verra peut-être après, et les espaces de vie communs, les bureaux partagés. Donc on permet aux artistes de venir créer sur des temporalités qu'ils choisissent. Donc ça va de 1 semaine à 1 mois et demi. On met à disposition aussi un partage de matériel scénique avec le Théâtre du Grain, avec le Grain maintenant. On mutualise ça. Et puis on organise pour leur permettre aussi de montrer leur travail au public. En fait, c'est aussi une volonté du Maquis, au-delà d'accueillir des artistes, c'est surtout de créer un lien de territoire, une proximité avec les habitants et de pouvoir développer quelque chose sur le territoire de plus impactant que simplement accueillir des artistes. Et maintenant, il y en a beaucoup aussi qui proposent des ateliers, des immersions avec les habitants, de faire des interviews avec eux, des photos.
Bonjour.
Bonjour.
Ça va ?
Oui, ça va.
On s'est coupé les cheveux ?
Ouais,
pas l'autre jour.
Okay.
Si ?
Si. Mais là, comme c'est humide, bah, ça remonte.
Qu'on m'apporte les plages, les criques, les rousses, autant que les blondes, pour en faire mon repas.
Monsieur, je souhaiterais que vous cessiez de vous gaver de sable. Vous ne devez plus rien extraire. Voilà ce que je pense.
Nous abuserons de tout cela en raison de cause. Avez-vous réalisé plein de beaux graphiques, de jolis diagrammes? Nous ne souhaitons pas connaître votre avis. Nous attendons de beaux graphiques et de jolis diagrammes. Et de la couleur, de l'animation dans les fromages. Nous vous payons pour les chiffres et les tableaux, pour les pourcentages, pour l'animation dans les fromages. Oh, François, comme j'aime vos pourcentages, comme vous les présentez bien. Alors, quand est-ce qu'on mange ?
Au-delà de les convier à une sortie de résidence, c'est de les faire participer à leur projet de création. Et c'est ce que soutient aussi le Maquis dans sa démarche d'implication sur le quartier de Saint-Pierre, sur Brest, et au-delà sur le territoire. Puis on a des artistes brestois, de la région Bretagne, bien sûr, mais il y a aussi des artistes qui viennent d'ailleurs. En ce moment, si tu as l'occasion de les rencontrer, j'espère, il y a Pierre et Larissa. Et Larissa, elle vient du Brésil et elle a fait ses études à Porto. Donc ça apporte aussi une dimension internationale qui est chouette dans les échanges qu'on peut avoir